Voilà, là ça marche, là ça enregistre. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, merci. Vous m'entendez là? C'est bon? Merci d'être venus nombreux à cette présentation. Alors, je pose la question rituelle, habituelle. Qui n'est pas encore inscrit à l'UTB dans la salle? Et c'est pas... non, mais pas encore inscrit, c'est-à-dire, je parle de... qui n'était pas inscrit l'année dernière? Je vais le dire d'une manière différente. Voilà. Voilà. Donc, alors, ceux qui lèvent le doigt, certains se sont déjà inscrits. On les en remercie vivement. Voilà. Donc, j'espère que mon... Peut-être vous étiez venu pour les conférences. Vous avez subi une deuxième couche sur les ateliers. Voilà. Donc, je rappelle en dehors de... Pourquoi fait-on cette présentation? D'abord, pour vous informer, bien évidemment. Pourquoi vous informe-t-on? C'est que notre support habituel de communication, c'est le bulletin mensuel. Quand on parle des ateliers, on a un éventail, une foison d'informations, et les adhérents après nous disent « Ah, oh, mais non, j'ai pas vu, je sais pas quelle heure c'est, tout et tout, donc j'ai jamais lu, enfin bon, voilà. » Donc, on complémente ça par une présentation verbale que je fais tous les ans et avant que les activités commencent, pour ne pas les découvrir. Donc, je rappelle également qu'on a constaté depuis plusieurs années que certains adhèrent à l'UTB parce qu'ils trouvent un atelier ou deux ateliers qui les intéressent particulièrement. Je ne dis pas que les conférences ne les intéressent pas, mais ce n'est pas leur point d'intérêt principal. Et donc, ce sont tel ou tel atelier qui les intéresse. Donc, pour nous, c'est aussi une activité complémentaire, comme on les désigne d'une façon générique, qui nous apporte des adhérents supplémentaires. Et plus on a d'adhérents, vous le savez, mieux on marche, puisque notre seule ressource financière, ce sont vos cotisations. Nous n'avons pas de subvention monétaire de qui que ce soit dans le système. Les subventions sont des subventions en nature, et on en remercie. S'il y a quelqu'un de la municipalité, c'est l'accès gratuit aux salles de conférence et de nos bureaux administratifs, si vous voulez. Donc, c'est une subvention qui représente à peu près 10-12 000 euros. Ça fait 15% de notre budget. Donc, nous avons des subventions, mais qui ne sont pas monétaires. Et c'est dans l'air du temps, puisque vous savez que les subventions monétaires sont en baisse pour toutes les associations. Et donc, le message des édiles, c'est de dire, ben, j'essaye de compenser ça en partie par le fait de vous aider matériellement pour vos activités, en vous donnant des salles gratuites et des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais faire une petite... Alors, théoriquement, la liturgie de cette... je fais Monsieur Loyal, et donc chaque animateur d'atelier, s'il est là, présente son activité en quelques mots, et ensuite on passe à la suite. Et quand l'animateur est absent pour des raisons diverses, eh bien j'essaye de le remplacer au pied levé. Voilà, donc on y va. Bien, alors, dans les activités qu'on appelle complémentaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas des conférences, on a deux grands groupes d'activités. Celles qui font intervenir des intervenants extérieurs, des professeurs, on va dire, et donc ça, il faut les rémunérer, donc on paye une cotisation complémentaire qui permet de couvrir cette rémunération, et d'autres activités qui sont des groupes de travail, où il n'y a pas d'intervenants extérieurs qui interviennent, une fois de plus, et donc on n'a pas de cotisation supplémentaire à payer. et on fournit, si vous voulez, le support administratif, sinon technique, en fournissant les salles pour faire des groupes de travail, par exemple. On a la salle qui est à l'espace des arts qui permet de réunir un certain nombre de personnes. Alors, quel est l'intérêt, en dehors de l'intérêt intrinsèque de ces activités complémentaires? C'est que les gens se connaissent, puisque on passe d'une formule où la foule écoute un conférencier, comme aujourd'hui, mais la communication entre les personnes, elle est quand même minimale, à part, disons, de raconter ses petites affaires en sortant dans le hall de la maison des syndicats. Donc, ça favorise pas, si vous voulez, les échanges entre les personnes. Quand vous êtes dans un groupe d'activités, eh bien, vous vous connaissez mieux, et là, les relations se créent un peu spontanément, ça c'est naturel, et l'expérience montre que sans qu'on y soit pour quoi que ce soit, quand ça marche bien, au bout de plusieurs années, eh bien, chacun des groupes fait qui une sortie, qui le dîner de fin de session, etc. Ça permet de tisser des liens amicaux. Alors voilà un listing, je ne vais pas le lire, vous le lisez aussi bien que moi, donc l'informatique, l'ensemble des ateliers de langue, avec le nom des intervenants, et les autres ateliers, ateliers d'art plastique, histoire de l'art, œnologie, ateliers d'écriture, dictée d'autrefois, Wikipédia, groupe lecture, littérature, patrimoine écrit de Bourgogne, économie et géopolitique, éthique et société, marche et voyage culturel. Je dois dire que nous sommes la seule UTB, même au-delà de ce qui se passe à Dijon, qui propose une telle ampleur et une telle variété d'activités complémentaires. Dans beaucoup d'autres UTB, vous n'avez que les conférences et éventuellement quelques cours de langue ici ou là. Donc, c'est un plus. Venez à Chalon, engagez-vous. Voilà.
On verra pas beaucoup de pays.
Voilà. Alors, on y va tout de suite et on demande à Mathieu Pinette de nous présenter son cycle d'ateliers d'histoire de l'art dont vous parlez dans le micro distinctement. Merci. Donc vous connaissez tous Mathieu Pinette. Je vais quand même le présenter comme il est très modeste. Mathieu Pinette, c'est le propriétaire gérant du château de Germolles.
L'un des propriétaires,
mais il est quand même aussi propriétaire, on va dire de la moitié du château. Allez. Non, je blague. Et donc, il nous fait, depuis qu'il est revenu dans nos terres bourguignonnes, on le sollicite le plus possible en fonction de son emploi du temps, donc il nous fait toujours un cycle de conférences d'histoire de l'art, donc ce sont des conférences, mais ça, c'est une activité supplémentaire, donc des cycles de... Là, j'arrête, puisque je vais faire son laïus si je continue. Donc, Mathieu, à vous la parole. Voilà.
Bien, d'abord bonjour, et ravi de vous retrouver après une période vacancière. Deux choses peut-être de manière liminaire, avant de vous dire les trois ateliers que je me propose d'animer avec vous cette année. La première chose, c'est que les trois sujets qui ont été sélectionnés cette année sont le fruit d'un triple accord, pourrait-on dire. D'abord, ces sujets ont été choisis parfois par des gens qui, depuis plusieurs années, ont suivi les ateliers d'histoire de l'art et qui ont fait émerger un certain nombre de demandes que on a été amené à prendre en compte dans ce programme. Il y a évidemment un certain nombre de souhaits aussi qui ont pu être émis par l'équipe dirigeante, pourrait-on dire, de l'UTB. Et puis évidemment, mes souhaits personnels, c'est finalement la conjonction de ces trois facteurs qui m'a permis de proposer le programme des trois ateliers que je vais vous présenter aujourd'hui. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que les ateliers depuis quelques années ont lieu au lycée Milan-Gotet, dans une salle dans les hauteurs, au deuxième étage, qui n'est pas toujours facile d'accès. c'est assez haut, à la fin de la journée, ça peut être un peu fatigant. Alors nous sommes en train de voir, et j'ai personnellement rendez-vous avec une personne du lycée Milan Gotet dans quelques jours pour voir si au-delà de cette salle des hauteurs, il n'y aurait pas une salle un peu plus au rez-de-chaussée, plus facile d'accès et tout aussi confortable. Alors je ne peux pas encore vous donner la réponse aujourd'hui, vous dire si ces ateliers auront lieu tous ou pas tous au deuxième étage ou au premier étage ou au rez-de-chaussée. Nous allons débroussailler l'affaire et vous serez informés dans les meilleurs délais de l'endroit où auront lieu tous ces ateliers ou certains d'entre eux, mais sachez qu'on essaie de régler un peu cette question de l'emplacement de la salle pour les ateliers, pour la rendre peut-être un peu plus facilement accessible à tous et à chacun. Voilà pour ces deux déclarations liminaires. Alors, de quoi s'agit-il maintenant cette année en termes de sujets concernant ces trois ateliers? Le premier, vous le voyez, est le premier atelier qui va commencer précisément le 19 novembre et qui comprendra 5 séances. Hein, vous savez que chacun de ces ateliers comprend à chaque fois 5 séances. Le premier s'appelle Art Premier, justement, et son sous-titre est « Une approche des arts hors d'Occident ». Le but de cet atelier, c'est le suivant. Vous savez, aujourd'hui, finalement, on est un peu, nous autres gens d'Europe occidentale, pris dans une sorte de paradoxe, qui est que on nous demande, on nous enjoint parfois, et les faits font que, d'ailleurs, il faut de plus en plus essayer de mieux connaître le monde. On est dans une époque mondialisée. Or, ce monde qui nous entoure, ce monde extra-occidental, on ne le connaît pas toujours très très bien. Je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons regarder sans trop, j'allais dire, de méconnaissance, une sculpture espagnole ou une peinture anglaise. Mais qu'en est-il d'une œuvre d'art océanienne, d'un objet d'Afrique subsaharienne, d'une œuvre d'art extrême-orientale? Je crois que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, et que nous n'avons pas les clés de lecture, nous n'avons pas une approche qui pourtant, je crois, est de plus en plus nécessaire dans un monde où nos yeux doivent s'ouvrir justement sur le monde entier. C'est bien justement pour répondre à ce paradoxe-là, nécessité de connaître le monde et finalement méconnaissance du monde, que j'ai pensé que cet atelier serait intéressant. Il est d'ailleurs un peu parallèle au cycle de cours que j'aurais à proposer ici même au cours de cette année. Alors évidemment, nous n'avons pas dans cet atelier regardé, considéré toutes les cultures extra-occidentales et les étudier toutes à fond, totalement. Ce serait évidemment totalement impossible et irraisonnable. L'idée est plutôt, à travers quelques exemples, de défricher le terrain et de regarder d'un peu près un certain nombre d'œuvres provenant des 5 continents du monde et qui n'appartiennent pas à la culture que je qualifierais de culture occidentale. Voilà donc ce projet, ce propos, non pas, encore une fois, de tout voir, de tout regarder, mais finalement d'apprivoiser des domaines artistiques que nous connaissons mal et que je crois nous avons tout intérêt à connaître. Vous savez, après tout, la méconnaissance, c'est ça qui génère souvent la peur, la crainte, le retrait. Connaître, c'est finalement commencer à comprendre, à aimer aussi. Eh bien, c'est le but de ces ateliers-là, défricher le terrain de domaines artistiques que nous ignorons, et on ira aussi bien en Océanie qu'en Amérique, en Afrique, qu'en Extrême-Orient ou en Europe orientale. Voilà donc le projet que je vous propose pour cet atelier, que j'ai encore une fois appelé « art premier » entre guillemets, parce que cette locution-là peut, j'allais dire, être plus ou moins commentée. Voilà pour le premier atelier. Le deuxième atelier, qui lui commencera à partir de janvier 2016, s'appelle plus simplement « Portrait ». Et le sous-titre est le suivant, les développements d'un genre de l'Antiquité au XIXe siècle. C'est là finalement un atelier d'un genre, entre guillemets, plus classique. D'ailleurs, il y a quelques années, certains d'entre vous peut-être s'en rappellent, j'avais eu l'occasion de vous proposer un atelier sur un autre genre artistique qui était le paysage. Hein. Donc cette fois, c'est un autre genre plastique que nous allons évoquer le portrait, pas forcément d'ailleurs uniquement en peinture, hein, mais de ça nous aurons à reparler justement, mais après tout ce genre qu'est le portrait, qui nous paraît évident aujourd'hui, quand on voit un portrait, on ne se pose plus aucune question. Peut-être a-t-on tort. D'abord, c'est quoi un portrait? Je ne suis pas sûr que la réponse soit si évidente. Et puis le portrait, il apparaît quand en Occident? Quels sont les premiers portraits? À quoi répondent-ils? Peut-on citer des grands portraitistes? Est-ce un genre spécialisé? Enfin bref, il y a des quantités de questions à se poser. Eh bien, c'est précisément celle que l'on se posera au cours de cet atelier, qui a pour but de baliser un des grands genres artistiques de la culture occidentale, que nous allons donc regarder un peu sous toutes ses coutures. Hein, voilà pour le deuxième atelier. Le troisième, enfin, s'appelle très sobrement « Femme peintre » et, je pense que vous l'aurez compris, il a pour but de s'interroger sur la conjonction de ces deux mots, « femme » et « peintre ». C'est vraiment le but de l'atelier. L'idée, en effet, est de savoir, d'abord, quelles sont les femmes peintres, d'identifier une sorte de catalogue, de dresser une sorte de petit inventaire, toujours dans le monde occidental. Hein. Là, nous ne partirons pas au-delà des frontières du domaine occidental. Ça nous emmènerait beaucoup trop loin autrement, mais peut-on dresser une sorte de petit inventaire, de catalogue de ces femmes qui ont exercé le domaine de la peinture? Mais l'idée également est de voir, finalement, si j'ose dire, une féminité picturale. Est-ce que, vraiment, il est utile de considérer la peinture sous le prisme du genre féminin, pourrait-on dire, hein ? C'est aussi la question qu'on se posera. Y a-t-il une peinture féminine ? Peut-on reconnaître des œuvres de femmes peintres plutôt que d'hommes peintres? C'est par exemple une question que l'on se posera et qui peut-être nous réservera un certain nombre de surprises. Alors bien sûr, j'imagine bien qu'avec cet atelier, mes confrères masculins se disent « Oh ben voilà un atelier dans lequel on n'ira pas hein, », parce qu'évidemment les femmes peintres c'est fait pour les femmes, hein, qu'elles soient peintres ou pas, voilà un sujet qui est fait pour les femmes étudiantes, n'est-ce pas? Eh bien moi j'ai envie de dire exactement le contraire. Hein. D'abord je vois une chose, d'ailleurs je voulais m'en ouvrir au président, n'est-ce pas? C'est que les ateliers sont très largement des ateliers où les personnes qui y participent sont des femmes, justement. Ce qui d'ailleurs m'interroge beaucoup. Hein. Alors évidemment, dans un atelier, on se met un peu en danger. Hein. Ces ateliers d'histoire de l'art sont des ateliers un peu compliqués. Il faut avancer des choses, il faut s'engager, on se met un peu en danger, on répond à des questions, on se trompe pas. Ah, c'est un peu compliqué ces ateliers. Hein. Est-ce à croire que les femmes sont plus courageuses que les hommes? On peut vraiment se poser la question. Hein. Hein. Je vois d'ailleurs des tas de têtes qui acquiescent. Hein. Bah, c'est vraiment une question qui peut se poser. Évidemment, ces ateliers demandent un peu à mouiller sa chemise hein, et à se mettre en danger, encore une fois, à proposer des choses, des solutions, à répondre à des questions. Voilà, je note en tout cas qu'il y a une sorte de courage féminin. Alors, bien sûr, il y a tout de même, j'en vois d'ailleurs ici, quelques hommes qui osent fréquenter les ateliers d'histoire de l'art, mais j'aimerais qu'ils soient plus nombreux, et spécialement dans cet atelier-là, femmes peintres. Hein, on parle beaucoup de parité, c'est bien d'en parler, c'est mieux de la faire. Alors, messieurs, mes confrères, je vous attends dans cet atelier femmes peintres qui vous permettra justement de souligner et d'apporter votre dose de masculinité à l'intérieur d'un atelier qui parlera beaucoup du féminin. Voilà, monsieur le président, ce que je voulais dire sur les ateliers que je vais cette année présenter. Je vous remercie.
Merci, Mathieu. Merci du brio habituel, et donc nous ne sommes pas déçus, et avec votre plaidoyer, je ne doute pas que de nombreux hommes viendront non seulement au troisième atelier, mais également aux deux premiers. Voilà. Ensuite, atelier d'écriture. Alors, nous avons deux duettistes, parce que l'animatrice Maya est absente aujourd'hui, elle travaille. Ça arrive même à des gens très bien. Et donc les deux des piliers, et ce sont des hommes, hein, mais il y a également des dames, qui sont des piliers tout à fait actifs dans cet atelier, vont vous expliquer ce qu'ils y font. Et j'en profite, je leur vole la vedette, puisque le travail de cette année... Nous venons de l'éditer et j'ai été livré à 2h15 dans le coffre de ma voiture, ici sur le parking. Et donc, on vous propose un recueil de poèmes et surtout de nouvelles, très, très originales, sur un thème transversal qui s'appelle Miroir, qui ont été écrits par tous les membres du groupe. Et donc, au prix modique de 12 euros, vous passez. Ensuite, on en a quelques-uns ici pour que vous puissiez les regarder, éventuellement les acheter. Voilà, merci.
Bien. Donc, les ateliers ne sont pas exclusivement féminins. Nous sommes ici pour en témoigner. Atelier d'écriture, il sera décliné en deux ateliers cette année. Moi, j'ai parlé de l'atelier, entre guillemets, classique, et Jean-Paul vous parlera de l'atelier écriture longue, puisque notre animatrice Maya, son nom est quelque part, là, oui.
Oui.
Oui, notre animatrice Maya les distingue ainsi. L'atelier classique, c'est un atelier auquel on peut s'inscrire pour un tas de raisons, et on peut avoir beaucoup de bonnes raisons pour s'y inscrire. Moi, personnellement, qui ne suis pas un littéraire, j'y suis allé simplement par curiosité, pousser la porte. D'autres qui sont plus littéraires que moi, y sont allés pour d'autres raisons, pour quelquefois tout simplement passer du statut de lecteur consommateur, entre guillemets, au statut d'écrivain acteur, pour voir des petites techniques, des petites pistes, afin de pouvoir écrire. Les conditions pour s'inscrire dans cet atelier, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conditions. Je vais même vous dire qu'il n'est pas utile d'être un littéraire ayant lu l'intégrale de Proust, Chateaubriand ou Houellebecq. C'est pas utile. Pas plus qu'il soit utile d'être le roi de l'orthographe. Non, mais je le dis pour se décomplexer totalement. Du moment qu'on puisse tenir un crayon et quand même aligner quelques mots, ça suffit.
Et
avoir une feuille, quand même, pour pas écrire sur la table. Voilà. Donc, voilà pour les conditions. Alors, comment se passe l'atelier ? L'atelier se passe de la manière suivante. C'est un atelier de 2 heures qui aura lieu pour celui qui est donc classique, alors que je me trompe pas, le jeudi de 10h à 12h, c'est bon ?
Si vous le dites, oh sûrement, oui.
Hein ? De 10h à 12h, à l'UTB, hein, à l'Espace des Arts. Ça a changé ?
Il y a lundi et jeudi, il y a les deux ateliers, c'est le...
Oui. Ah bon ? Oui. D'accord. Ancienne maison des associations, me souffle-t-on. Donc, pour l'atelier du jeudi, c'est l'atelier classique qui débutera le 12 novembre. Voilà. Et auquel tout le monde peut se rendre, même si vous ne confirmez pas votre inscription tout de suite. On a le droit d'aller voir, hein, toujours. On a le droit à une séance gratuite. Voilà. Alors, cette séance, en deux mots. On nous propose un texte d'un auteur, pas très long en général, qui est lu, sur lequel on fait un premier échange. Et puis, à partir de là, Maya propose, je dirais, un exercice très variable. Ça peut être, on s'attaque à la description de portraits, de personnages, à une situation de communication. Enfin, bon, elle nous multiplie les sujets, les exercices possibles. On prend la feuille et le crayon et on écrit. Voilà. Et au bout d'une demi-heure, 40 minutes, chacun lit son texte. Et là aussi, il faut effectivement se mettre un petit peu en danger, mais c'est pas un danger bien dangereux. chacun lit et puis ensuite nous commentons. Moi, ce que je trouve c'est que nous sommes jamais dans le jugement. On est dans l'analyse, on est dans le ressenti, et à partir de là, ben, on voit ce qui va, ce qui va pas, ce qui aurait pu être fait, etc. On peut avoir aussi, j'allais dire, un devoir à faire à la maison, c'est-à-dire qu'entre deux séances, on peut approfondir un point et on peut avoir un texte à faire que Maya, effectivement, alors elle va, revoir de son côté, corriger, si j'ose dire, hein, de son côté, et nous dire un petit peu ce qui va, ce qui va pas, ce qui aurait pu être fait. J'ai tout dit, Jean-Paul, sur l'atelier lui-même. Alors, les plus, Les plus de cet atelier, c'est qu'effectivement, on peut le dire à l'aise, elle n'est pas là, hein, on a une animatrice qui, l'air de rien, nous fait progresser, mais vraiment l'air de rien, l'air de pas y toucher, c'est ce qui est intéressant. Et puis, le président le disait tout à l'heure, le fait de se connaître dans un groupe, c'est effectivement bien agréable de pouvoir échanger, se crée très vite une émulation, moi je dirais une très grande complémentarité, hein, entre les participants, et ça aussi, ça fait progresser. Voilà. Jean-Paul vous présente le deuxième atelier.
Alors Jean-Luc vous a parlé de l'atelier classique qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et il vous a décrit son fonctionnement. Moi je vais vous dire quelques mots sur un deuxième groupe qui s'est créé l'année dernière seulement et qui a comme objectif de travailler sur des textes plus longs tout au long de l'année, alors que ces textes soient de la fiction, soient des récits ou autres. Et ce groupe a bien marché l'année dernière, je crois qu'on peut le dire, puisque chacun des participants a écrit une ou deux nouvelles sur un thème qui avait été choisi d'un commun accord au départ, et ce thème l'année dernière c'était donc le miroir ou les miroirs. Et ces nouvelles ont été regroupées dans un recueil dont vous a dit un mot donc notre président, un recueil qui est édité par l'UTB et qui vient de sortir, et qui était donc à la disposition de tous, et en accédant à ce recueil, vous verrez ainsi quel type de travail on fait dans l'atelier, et comment ça se passe, et quels résultats ça peut donner, et donc des textes très divers les uns des autres, par rapport à un thème unique au départ. Et j'ajoute qu'il y a une très bonne ambiance dans ce deuxième groupe. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une mauvaise dans le premier, parce qu'il y en a un certain nombre qui font partie à la fois du premier et du deuxième, et qu'on s'est fait vraiment plaisir pour arriver à ce résultat. Alors, pour l'année qui débute, ce deuxième groupe va être conduit et va même être renforcé. Et il n'y a pas de condition, donc, pour venir.
Il faut payer la cotisation.
Oui, autre que payer la cotisation, hein, il n'y a pas de cotisation, de condition, je dirais, intellectuelle ou de pratique pour venir dans ce deuxième groupe. La seule condition, c'est d'avoir envie d'écrire. Et l'écriture, c'est un outil merveilleux pour s'exprimer. C'est un outil merveilleux pour exprimer sa vision du monde, ses idées, ses sentiments. Alors, il ne faut pas hésiter à s'engager. Tout le monde y arrive, même si on n'a pas l'habitude. Et Maya, donc, aide tout le monde. Et entre nous, entre les participants du groupe, il y a aussi une entraide et qui est parfois très, très précieuse.
Eh bien, merci Jean-Paul. Donc,
Bien.
Ah, je vais couper ça tout de suite.
Dans la salle, il y a Natacha et Marie qui peuvent peut-être ajouter quelque chose si elles veulent. Hein. 12 euros.
Et c'est en avant-première mondiale.
Alors, je le dis, puisqu'il venait m'apporter ces 12 euros, donc les participants, les auteurs, ont gagné un livre gratuit. C'était quand même le minimum qu'on puisse faire. Voilà.
Merci.
Voilà. Alors, ensuite, atelier d'œnologie. Monsieur Philippe Strohel. Ah, vous voyez, tout de suite, on parle de vin. Et donc, on se délie.
Bonjour. Oui, je m'appelle Philippe Strohel. Je suis caviste à Givry. Et depuis, donc, 2013, j'anime les ateliers œnologie, donc, pour l'UTB. Ces ateliers se déroulent le jeudi matin, donc de 10h à 12h. Il y a 5 ateliers dans l'année qui vont de novembre, qui sont organisés entre novembre et mars, à raison d'un atelier par mois. Ces ateliers, évidemment, on va donc la première session, par exemple, pour donner une idée, la première session donc de 2013-2014, nous avons parlé de la dégustation des vins en général, de l'élaboration des vins, etc. On a traité, par exemple, la dégustation des vins, comment on faisait des vins blancs, des vins rouges, des vins effervescents, des vins d'eau naturelle. Donc, parce que la dégustation, c'est toujours plus agréable quand on a un certain nombre de connaissances, hein, en sachant comment le produit est fait, en apprenant à le déguster également. Donc, la deuxième année, nous avons commencé une balade, on va dire, œnologique au travers des vignobles français. Nous avions donc fait une session sur les vins de Bordeaux, une sur le Languedoc, sur les Côtes-du-Rhône méridionales, sur la Touraine et sur l'Alsace. Et cette année, on envisage de poursuivre un petit peu cette déambulation œnologique au travers des vignobles. Et donc, je propose donc de faire une session sur les vins de Corse, les crus du Beaujolais, du Sud-Ouest, de l'Anjou et des Côtes-du-Rhône septentrionales, donc la partie nord des Côtes-du-Rhône. Donc, dans ces dégustations, donc qui durent 2 heures, hein, qui sont organisées donc le jeudi matin. Donc on va parler évidemment des vignobles, hein, pour avoir une meilleure connaissance des différents vignobles, de l'organisation des vignobles, du type des vins qu'on y produit, type de cépage, etc. Et puis évidemment, comme du vin on peut en parler, mais ce qui est important également, c'est de déguster, hein, c'est même, je dirais, essentiel. Donc on va donc déguster les vins de ces différentes régions, donc une dégustation commentée, voilà, de ces vins, avec également, voilà, parler de la façon dont ils sont faits, leurs caractéristiques, etc. Donc évidemment, quand on goûte 5-6 vins d'une région donnée, on va en avoir une idée, évidemment pas complète, mais dans une dégustation et dans le vin, on n'aura jamais une idée complète d'un vignoble, hein, qui est trop vaste, mais en tout cas, on doit avoir, je veux dire, une idée, une bonne connaissance des caractéristiques et de l'organisation des différents vignobles et de la dégustation des vins. Donc ça ne demande pas une aptitude particulière ou un entraînement déjà particulier. On n'est pas obligé de boire tous les jours pour vous inscrire à ces ateliers. Hein, voilà. Donc ça s'adresse à tous les gens, voilà, qui sont curieux, qui apprécient le vin, parce qu'évidemment, si vous n'aimez pas le vin, là, c'est plus problématique. Mais voilà, des gens qui s'intéressent au vin, d'en savoir peut-être un petit peu plus. Et puis donc pour apprendre et perfectionner la dégustation des vins. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors oui, je me plains pas parce que on a une parité quasiment, hein, on a à peu près moitié femme, moitié homme. Donc vous voyez, on pourrait penser que dans ces ateliers-là, à l'inverse des ateliers de Mathieu Pinette qui n'a une forte majorité de femmes, on pourrait se penser qu'ici, avec des hommes, ben, pas du tout. Oui. Donc, on a une parité, oui. On a moitié femme, moitié homme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que les femmes, souvent, dégustent très bien. Hein.
Bien. Voilà. Bien, merci, monsieur Stroh.
Merci beaucoup.
Ah, une question.
Une question.
Non, alors, c'est de la
dégustation. On va déguster 5-6 vins, voilà, sur on crache, il y a des crachoirs. Et puis, alors bon, tout le monde, les gens ont des fois du mal à cracher, hein, mais on va pas faire un atelier crachoir, si vous voulez, pour apprendre à cracher, ça c'est bon. Encore, ce serait pas inutile des fois, je crois que les gens des fois ça les retient un peu parce qu'ils ont ils ont peur de pas savoir cracher, mais enfin bon. Donc on goûte 5 vins sur 2 heures, et puis voilà, ça reste de la dégustation. Donc c'est moins d'équivalent d'un verre de vin, donc en général les gens sont en état de repartir en toute sécurité. Hein, je veux dire, voilà, personne n'est encore...
Bien, merci beaucoup.
Merci.
Alors, l'animateur, l'atelier Wikipédia. Alors, qui ne sait pas ce qu'est Wikipédia? Vous, levez le doigt. Non, vous savez ce que c'est. Alors, Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne qui couvre la planète entière, qui est le 7e site le plus visité au monde et qui fait à peu près entre 1000 et 5000 fois le volume des encyclopédies les plus développées qui est à l'instant T, l'autre, le numéro 2, c'est l'Encyclopédia Britannica. Donc il y a un nombre de pages, ça se compte en dizaines de millions de pages, c'est absolument impressionnant. Alors le principe de Wikipédia, ce sont les lecteurs du monde entier qui ont des compétences ou qui prétendent en avoir dans tel ou tel domaine, qui font les articles de cette encyclopédie. Ça paraît simple, comme ça, au premier degré, mais l'expérience a montré, tout simplement parce que l'UTB a fait quelques fiches Wikipédia qui étaient liées directement à ses activités, soit des activités du groupe Patrimoine écrit de Bourgogne, soit de ceci, soit de cela, d'histoire, des choses comme ça, de mettre en référence les livres qu'elle édite, puisque le principe de Wikipédia, c'est que toute information qui paraît dessus doit être sourcée, c'est-à-dire la référence d'un ouvrage qui parle du sujet doit être indiquée explicitement dans la chose. Et souvent sur les articles Wikipédia, vous voyez, cet article ne cite pas suffisamment ses sources. Et en particulier, quand ce sont des sujets qui sont en cours de développement, je parle surtout des sujets scientifiques, par exemple, eh bien, on ne peut pas parler d'un sujet qui est en cours de développement pour lequel la publication n'est pas sortie, si vous voulez. On ne peut pas parler de recherche, on ne parle que de publications existantes. Alors, l'expérience a montré, c'est un petit peu la même problématique que l'atelier d'écriture, si vous voulez. C'est-à-dire, chacun, tout seul dans son petit coin, peut essayer de faire. C'est ce que j'avais commencé par faire, à titre personnel. Et très rapidement, je me rends compte que c'est, si vous ne faites pas ça tous les soirs, ce qui est mon cas, je vous rassure tout de suite, on est un peu perdu. C'est un peu comme l'usage de l'informatique en général. Si vous n'avez pas une pratique quasi quotidienne, eh bien, vous oubliez vite la façon de faire. Et donc, l'expérience a montré qu'en échangeant des expériences, effectivement, chacun progressait plus vite. Et on a fait faire, il y a des personnes, elles ne sont pas là aujourd'hui, là, qui sont venues de Nolay, qui travaillent sur des personnes qui ont un passé historique à Nolay. Eh bien, ils voulaient faire une fiche. Et donc, ensemble, on l'a faite et on a réussi à faire un certain nombre de choses. Alors, Wikipédia, c'est génial parce que, une fois que vous avez fait une fiche, qui consiste à faire un texte avec des paragraphes, introduction, développement, référence, bibliographie, ça n'a rien d'extraordinaire, vous constatez que dans la demi-heure qui suit, votre fiche se modifie. C'est-à-dire, soit vous avez des gens qui ont détecté que vous aviez fait une nouvelle fiche et qui rajoutent des choses qui, à la limite, peuvent ne pas vous plaire parce que vous dites c'est faux ou des choses comme ça. Ou alors, il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit. Mais ce sont des robots, c'est-à-dire des programmes informatiques qui corrigent les fautes d'orthographe, qui corrigent les fautes de grammaire, qui font les tableaux automatiquement, qui font une analyse syntaxique du texte et qui permettent d'extraire la date de naissance, la date de mort, le lieu de naissance, le lieu de mort, sans que vous ayez fait le tableau. Mais il sait les retrouver dans votre texte et fabriquer le tableau qui dit « Monsieur Machin », dont vous avez fait l'affiche, est né le temps à tel endroit, est mort le temps à tel endroit. Et voilà sa profession, voilà ce qu'il a fait, voilà ses titres, voilà, etc., etc., etc. Donc c'est assez impressionnant. Et en plus, l'historique de tous ceux qui interviennent, soit des humains, soit des robots, est conservé derrière la fiche en question. Et vous voyez tout ce qui se passe. C'est absolument fantastique. Donc on est 4 ou 5 personnes, on ne peut pas être 10 hein, parce qu'on ne peut pas échanger, mais si ça vous intéresse, donc c'est, en plus c'est gratuit, et donc j'anime ça une fois par mois. Alors vous êtes le spécialiste de l'Ikebana par exemple, hein. Vous savez tout sur l'Ikebana, donc vous regardez déjà ce qu'il y a sur Wikipédia, il y a déjà beaucoup de choses, mais vous savez faire un truc bien particulier, vous voulez compléter une fiche, eh bien vous complétez la fiche pour le bénéfice de la terre entière, en français. On peut faire aussi en anglais, en finnois, en japonais, ou en basque, ça existe. Il y a 196 langues dans Wikipédia. Voilà. Le ouïghour, le mandarin, le chinois, enfin, etc., etc. Voilà. Des questions ? Non, pas de questions. Alors ça, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre culture, c'est-à-dire pour nous, l'encyclopédie, il y a des sachants qui font des choses, donc comme ce sont des experts, ils savent tout, ils mettent ça dedans, et donc comme c'est eux qui l'ont dit, c'est vrai. Donc là, on sort de cette logique-là, et on dit, les sachants, il y en a beaucoup plus que les quelques mandarins qui fassent, et il y a eu des études universitaires américaines qui ont fait des études comparatives du nombre d'erreurs qu'il y avait dans Wikipédia par rapport aux encyclopédies nobles et prestigieuses, et le résultat, ça a été, il y a autant de bêtises dans l'une que dans l'autre. Donc, les grands experts disent beaucoup de bêtises, également. Mais eux, ils ne mettent pas les références, en général, puisqu'ils sont doctes, et donc, c'est pas la peine que, de montrer patte blanche. Donc, si c'était mal fait, ça se saurait, hein. Et ça ne vit, comme l'UTB, que des cotisations. Il n'y a pas de publicité. Et ça ne vit que des contributions généreuses de tous les membres. Et ça marche. C'est quand même extraordinaire. Et pour faire marcher ce monstre, il y a 173 employés. Aujourd'hui. 173 employés. Pas 10 000, pas 20 000... Parce que si ça marche qu'avec les cotisations, c'est comme Muriel, si vous voulez. Il y a 173 Muriel pour faire marcher Wikipédia. Muriel, c'est notre secrétaire, pour ceux qui savent. Voilà. Bien, donc si vous voulez en savoir plus sur Wikipédia, ben, vous viendrez me participer à l'atelier que j'anime. Hein. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une conférence sur Wikipédia qui est disponible dans les meilleurs sites internet qui existent sur la planète, c'est le site de l'UTB. Voilà. Informatique. Alors, informatique, l'expérience montre depuis quelques années que la demande en informatique est moins forte, sauf pour les débutants. Hein. Donc, on fait toujours beaucoup d'ateliers de débutants et on a quelques personnes qui souhaitent des perfectionnements dans tel ou tel domaine. Alors, comme on ne peut pas préjuger chaque année quelle sera la demande, la façon de procéder, c'est la suivante. Les gens s'inscrivent sans payer, en disant « moi j'aimerais bien faire ceci ou cela ». Pour donner des idées, on donne les thématiques qui sont inscrites ici. Et disons, vers la première quinzaine de novembre, je réunis toutes ces personnes à l'IUT, et avec les, parce que les animateurs, ce seront des étudiants de l'IUT. Hein. Et donc, on demande individuellement à chacun ce qu'il souhaite faire, et après on essaye de créer des groupes qui soient les moins hétérogènes possibles. On va dire les débutants d'un côté, ça c'est ça le plus facile, et après, c'est d'essayer de mélanger des gens qui veulent faire du Word, d'autres qui veulent faire du PowerPoint, de la messagerie, de l'Internet, ou de la retouche d'image, si vous voulez. Et donc, on fait des groupes qui soient le plus homogènes possible, et ensuite, on définit le calendrier, les horaires qui plaisent à chacun, c'est-à-dire les gens veulent venir à condition que ce soit ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le vendredi. Ça, on dit, parce que j'ai le bridge, j'ai les enfants, j'ai le machin, les petits-enfants. Bon, là. Donc, c'est pas toujours très facile. Et donc, on essaye d'harmoniser tout ça. Donc, vous voyez le tarif. Et il y a 6 séances. Ça se passe en général de début décembre aux vacances scolaires de février. Hein, voilà. Mais s'il y a une demande très forte dans telle ou telle spécificité, eh bien, par exemple, on n'a jamais fait de cours sur la confection de sites Internet, si vous voulez. Parce que là, ça demande une technicité qui est d'un niveau supérieur. Mais on ne sait jamais, s'il y avait 3 ou 4 personnes qui étaient intéressées par ça, on peut essayer de monter quelque chose. Voilà. Voilà, donc là, c'est expliqué dans le détail. Alors, atelier de langue. Donc, les ateliers de langue, là, sont bien sûr payants, puisque ce sont des professionnels qui interviennent. On a essayé des tas de formules, et finalement, on demande à payer sur l'année entière, parce que c'est toujours difficile. Ah ben oui, je sais pas. Puis, bon, il y a d'autres personnes qui ont des difficultés de paiement, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, on accepte un paiement en 2 séquences. Mais on demande les 2 chèques dès le départ et on encaisse le second chèque à mi-session, si vous voulez. Hein? Alors, donc, anglais élémentaire. Donc, Michael Bullet, qui est un fidèle de cette présentation, est malheureusement aujourd'hui absent. Donc, c'est un anglais. Hein? qui est très apprécié, puisque l'année dernière, il a eu jusqu'à 20 élèves dans deux groupes, hein, et donc il travaille beaucoup à, disons, tous nos ateliers sont essentiellement basés sur la conversation, sur l'interaction. Bien sûr, il y a de la grammaire, je pense à l'italien, qu'elle va encore nous en parler. Donc, il faut quand même pas oublier, comme on dit en général, les bases, hein, sinon les gens sont très vite perdus, mais l'idée c'est quand même d'axer ça sur le conversationnel, sur l'interactif. Nous sommes à des âges, nous sommes toujours tous jeunes bien sûr, mais la capacité d'assimilation et de mémorisation, elle est quand même moins bonne que celle qu'on pouvait avoir quand nous étions plus jeunes au collège ou au lycée, même si on n'a pas des souvenirs toujours éblouissants de nos études de langue dans la période scolaire. Hein. Voilà, alors, si vous voulez, on a différentes formules de niveau et tout. De la même façon que l'informatique, on ajuste un petit peu le tir, d'abord avec les anciens, si vous voulez, et quand les gens savent pas bien où se placer, eh bien, ils viennent également à la première séance d'une façon gratuite pour dire « Ah ben non, là, le niveau est trop bas » ou « Le niveau est trop élevé » et donc ils essayent le deuxième groupe, si vous voulez. Donc il y a une phase d'ajustement tout à fait au début du cycle qui permet aux gens d'être dans le bon groupe, si vous voulez. Hein. Alors, la conversation anglaise, vous voyez, on fait tout sauf parler. Donc on boit du vin, on fait des garden parties, on fait des pique-niques, des choses comme ça. Non. Alors la conversation anglaise, c'est un groupe. Donc, voilà. L'animateur est là, donc je vais le laisser parler. Voilà. Monsieur Michel Pagnon, donc, qui est l'animateur du groupe de conversation anglaise. Là, il n'y a pas de prof.
Oui, bonjour à tous. Il n'y a pas de professeur, hein, c'est pour ça que c'est gratuit. Mais malgré tout, nous avons avec nous des Anglais natifs, ou des Américains ou des Irlandais qui font un peu les professeurs et qui, au cours de ces différentes discussions, ben, on peut varier un petit peu le quotidien et tout le monde peut venir. Ça peut être un bon complément aux cours d'anglais. Ce que nous faisons, ce ne sont pas des cours. On discute, de temps en temps même on se dispute, c'est difficile en anglais, mais ça peut arriver parce que on a des gens qui sont bien anglais, voilà, ou américains, entre autres en ce moment, nous avons des américains jeunes d'ailleurs, hein, ce sont pas
des... très vite.
Qui parlent très vite et qui ont des idées bien précises et sur lesquelles, évidemment, pour nous autres qui voulons conserver un petit peu notre anglais scolaire ou professionnel, c'est pas toujours facile d'avoir les réponses en anglais. Donc voilà, donc tout le monde peut venir. Ça se passe les mercredis à l'IUT, toutes les semaines.
Vous avez une photo, là, la photo qui est ici, là, voilà. C'est la salle d'examen. Donc voilà. Vous voyez la disposition et les gens...
Donc, mais on s'arrange pour la disposition, hein, ça dépend du nombre de gens qui sont là. On était à peu près l'année dernière 22 personnes qui étaient inscrites, assidues, et chaque fois en moyenne entre 13 et 18 qui sont là, donc ça dépend, on peut des fois se diviser en deux groupes parce que ça devient un petit peu difficile si tout le monde se met à parler en même temps, mais en général ça se passe bien. Donc le premier cours devrait reprendre le premier mercredi d'octobre, donc ça sera le 7 octobre à l'IUT. Entre temps, je sais qu'il y a quelques petites rencontres même qui doivent se passer en dehors de ça, mais ça après c'est l'avantage effectivement de ce genre de groupe. Voilà. J'en profite quand même aussi, tiens, pour demander si par hasard, il y a Madame Joncourt serait ici. Non. Bon, donc, j'essaierai de la rejoindre par ailleurs.
Donc, il y a quelques années, on avait pu obtenir le concours des jeunes assistants étrangers d'anglais dans les différents établissements d'enseignement. Bon, le fil s'est un peu coupé parce que la personne qui s'en occupait, malheureusement, elle a disparu. Et donc on va à nouveau cette année réessayer. Alors je crois qu'il y en a un qui a sa fille qui est au rectorat. Suivez mon regard. Non ? Pas toi ? Non, je confonds avec quelqu'un d'autre. On a le problème, si vous voulez, ces assistants anglais viennent à peu près à octobre-novembre, donc il faut qu'on trouve une personne qui connaisse l'organisation du système. On prendra un contact avec les lycées pour retisser le lien, parce que ça nous apportait, si vous voulez, déjà de la jeunesse d'une part. Et deuxièmement, une façon différente de voir les
choses. Absolument.
Parce qu'à trois générations d'intervalle, on est quelquefois un petit peu surpris des attitudes des jeunes, si vous voulez.
Oui.
Dans le bon sens ou dans le mauvais, si vous voulez.
On a eu de bonnes rencontres. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont toujours en contact via les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui étaient là il y a 2 ou 3 ans.
Donc quand les jeunes viennent, à la fin de l'année, eh bien, je fabrique des petits diplômes que je leur remets à la mode anglo-saxonne, solennellement, avec un petit gueuleton, on boit un petit coup. Et puis,
la bise aux jeunes filles, en plus,
et voilà. Mais vous verrez ces séances sur le site internet. Voilà.
Voilà.
Merci. Alors, Michel. Alors, Nicole Caspri, qui s'occupe de l'atelier d'allemand, va nous parler de ce qu'elle fait. Voilà.
Oui, bonjour. Voilà, j'ai...
Oui.
Je ne sais pas si je vais faire avec le micro ou pas. Vous m'entendez bien? Très bien. Parce qu'avec le micro, ça...
Non, mais si, il faut entendre. Il n'y a qu'à mettre le micro loin.
Comme
j'ai l'air. Non, mais il faut qu'elle tienne le micro. Attends. Donne-lui le micro, mais baisse le truc. Non, pas celui-là, l'autre. Oui, voilà. Là, c'est moins fort. Voilà. Non, mais voilà, oui.
D'accord. Bon, j'aime pas trop ça.
Ça va mieux, là.
Donc, on va déjà parler du lieu. Donc, on est accueillis très gentiment au lycée de la Colombière. Donc, avantage, il y a un grand parking gratuit, donc fermé. Et on fait du covoiturage tous les ans pour ceux qui... Le groupe est extrêmement serviable. Moi aussi, je m'y mets. Hein, donc, c'est un petit peu isolé. C'est dans le quartier des Aubépins, mais logiquement, ça ne doit pas poser de problème. Autrement, les cours, comme vous voyez aussi, je pense, ont lieu le mardi. Donc, ils se suivent. Ce qui permet de passer d'un groupe à l'autre en début d'année. Par exemple, vous êtes nouveau, vous voulez reprendre un peu d'allemand, vous en avez fait étant plus jeune, vous croyez que vous ne savez plus rien. En réalité, ce n'est pas vrai du tout, hein, parce qu'on a des acquis dans sa mémoire. Donc ces acquis, même si on les a complètement oubliés en langue vivante, c'est ça, hein, ces acquis demandent qu'à être réactivés et à ressortir. Et ça aussi, c'est gratifiant. Hein, quand on refait quelque chose, on voit qu'on a quand même des connaissances. Hein, donc, soyez pas frileux, si j'ose dire. Hein. Ne vous dites pas, oh là là, moi, j'y arriverai pas. Ça, c'est pas vrai du tout. Hein. On fait très bien la différence entre quelqu'un qui a jamais fait d'allemand, qui a jamais fait de langue. On en a eu dans les groupes, moi, j'en ai fait dans le temps. Et quelqu'un qui a fait ne serait-ce que 2 ans de langue, eh ben, le fossé se creuse très rapidement et on progresse bien plus vite si on en a fait un tout petit peu, même il y a très longtemps. Voilà. Hein, et donc, en début d'année, le groupe est souple. On peut passer d'un groupe à l'autre. On peut assister aux 2 cours pour trouver sa place. Donc, c'est vraiment ouvert. Hein, voilà. Autrement, ben, qu'est-ce qu'on fait hein?
De l'allemand.
Quel est le contenu? L'allemand, oui, bien sûr. Ça, oui. Si j'ose dire. Ah, donc, on fait de l'allemand avec tout moyen. J'ai beaucoup d'imagination. Je refais jamais les mêmes choses. Je m'embête rapidement. Donc, je fais des documents extrêmement variés qui correspondent à une attente du groupe. Ça peut être des documents de toute façon avec la vie quotidienne. Même l'allemand tel qu'il est parlé maintenant, hein, pas du tout un allemand, on disait aussi avec les jeunes. Moi, je travaille beaucoup avec les assistants et c'est vrai que j'écoute beaucoup la télé aussi et c'est vrai qu'on découvre plein de choses. Une langue, c'est quelque chose qui bouge. Bon, l'anglais bouge encore plus vite sous l'influence de l'américain, mais toutes les langues bougent Et très vite, donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça remet en question. Hein. Donc, on a tout moyen. On parle de la vie quotidienne, on parle de la civilisation, on parle avec plein de documents. Moi aussi, j'ai un petit projet cette année d'essayer de travailler avec une assistante, parce que ça aussi, ça amène un coup de jeune, ça amène autre chose dans le groupe. Autrement, bien sûr, avec un objectif, on a beaucoup parlé de l'expression, on est là pour parler, hein, donc ça se parle, bien sûr, mais aussi la première chose à assurer, vraiment, c'est la compréhension. Vous savez, des fois, quand vous êtes face à quelque chose, à un mot de langue, vous ne comprenez rien, mais après, vous n'avez plus rien à faire. Hein, donc on essaye déjà de travailler la compréhension, et puis bien sûr, après, apprendre à s'exprimer, avec les mots pour le dire, hein, si, c'est-à-dire avec du vocabulaire, avec aussi la structure d'une langue, hein, sur ça on parle, je ne sais pas comment, c'est-à-dire la grammaire, Donc ce que je voulais vous dire aussi, puisqu'on est là pour faire de la pub aujourd'hui, hein, c'est que les groupes d'allemands sont extrêmement sympathiques, ouverts, on se connaît, on lit connaissance, il y a beaucoup de gens qui ont maintenant des liens d'amitié, hein, au départ ils ne se connaissaient pas, et puis ils ont des liens d'amitié, voilà, quand ça se passe bien, c'est un peu ce à quoi ça aboutit, et c'est ce qui me motive, moi aussi, pour continuer encore un peu. Voilà, donc une dernière petite chose, je fais tous les ans un taux de bienvenue, d'accueil. On mange des pretzels, voilà, des choses comme ça, pour commencer l'année. Ah, de la bière, peut-être pas quand même, attendez. Oh, ben, s'il faut, pourquoi pas, hein. Moi, je bois pas de bière, mais bon, je suis vraiment une transfuge.
Mais il y en a pour la boire, aussi. La bière.
Hein? Moi, je peux contente de proposer un chorle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un chorle? Eh bien, c'est moitié eau pétillante et moitié jus de pomme. On peut corser le truc en faisant un Weinschorle, c'est-à-dire moitié vin blanc, moitié vin rouge et moitié eau pétillante. Ça aussi, on peut faire, voilà. Hein? On peut faire ça. Hein? Et donc, ça va avoir lieu le 13 octobre. Le 13 octobre, c'est un mardi aussi à 10h au lycée de la Grande Colombière. Donc, si vous voulez venir pour vous informer, pour connaître le groupe, vous pouvez tout à fait. Hein, donc, vous inscrivez au secrétariat UTB, s'il vous plaît. Hein, ça ne vous engage pas, hein, même si après vous ne voulez pas le faire, c'est pas un souci, mais juste venir vous rendre compte. Voilà, donc c'est le 13 octobre à 10h. Et soyez gentils de vous inscrire au secrétariat avant, hein, que je puisse organiser. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, peut-être.
Alors, espagnol, l'animatrice n'est pas là, c'est la même qui fait l'atelier d'écriture, Maya, hein, et donc elle travaille aussi, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et donc là, on a repris un cours, si vous voulez, débutant amélioré, donc qui continue cette année. Voilà, je n'ai rien de plus à en dire, voilà, tout est mis là-dessus. Alors, chinois. Chinois, notre ami Xiaong n'est pas là, donc nous avons une chinoise depuis déjà maintenant 5 ou 6 ans, Xiaong Poré, que je connais bien puisqu'elle a épousé, vous voyez son nom est pas très chinois, enfin son prénom oui, mais son nom est très français, et elle a épousé un collègue de travail, donc très français, hein. C'est une vraie chinoise de Chine, il n'y a pas de problème. Et ça passe très bien, si vous voulez, d'année en année, le nombre de personnes, augmente, puisque, je vous rassure tout de suite, vous n'apprendrez pas le chinois en venant au cours de l'UTB. Le chinois, il faut 20 ans pour le maîtriser, donc c'est une approche du chinois, puisque le chinois, il faut faire 3 choses à la fois, mémoriser les idéogrammes, mémoriser la prononciation et avoir, comme dans toutes les langues, le vocabulaire. Je dirais, à la limite, le plus simple, c'est la grammaire. Hein, c'est vraiment basique. pour parler en chinois, il suffit de parler petit nègre. Hein. Moi, content, ça veut dire bonjour. Ni hao. Hein, voilà. Et dire merci, si. Hein. Voilà. Donc, je vous ai dit déjà, c'est le premier cours de langue, hein, c'est gratuit. Voilà. Donc, c'est plus un exercice, je dirais, de curiosité intellectuelle, de dire, il y a des manuels, si vous voulez, et l'expérience montre qu'il y a un effet d'émulation entre les personnes, exactement ce qui vous a été expliqué avec les intervenants précédents, et ça fonctionne. Actuellement, on a un phénomène, en particulier en chinois, mais dans d'autres langues aussi. Vous savez qu'il y a une autre association qui fait beaucoup de langues, c'est l'Université Populaire, mais qui est beaucoup plus dans une logique scolaire, si vous voulez, avec des groupes plus importants, avec une progression, si vous voulez. Et c'est très bien, hein, d'ailleurs. Et en fait, on n'est pas directement concurrent, l'expérience l'a montré, puisque il y a des gens... Nous, on envoie des gens à l'Université Populaire quand les gens recherchent, finalement, cette logique de progression et sur quelque chose de plus intensif, si vous voulez, alors qu'il y a des gens qui viennent de l'Université Populaire en disant « Mais non, moi, ça me convient pas, j'ai mieux une formule plus conversationnelle avec des groupes plus petits, si vous voulez. » Donc, en fait, entre nous et l'Université Populaire, on est plutôt complémentaires que directement concurrents. Hein. Je l'évoque puisque on dit toujours ah bah oui mais vous êtes non en fait l'expérience montre que c'est pas le cas. En particulier en chinois, il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'Université Populaire parce que la formule plus scolaire de l'Université Populaire ne leur convenait pas. Voilà. Donc de la même façon, là, venez voir et écouter, ça se passe à l'UTB, hein, dans la salle de réunion de l'UTB, et donc c'est très sympa. Et... il n'y a pas de problème. Italien, Madame Godichon.
Bonjour à tous, je suis donc Hélène Godichon. J'anime les ateliers d'italien depuis maintenant 7 ans. On a créé il y a 7 ans un cours débutant qui maintenant a atteint le niveau intermédiaire. Donc c'est un atelier qui a lieu le mardi à l'IUT, de 16h45 à 18h15. Correspond à des personnes qui ont déjà une connaissance sérieuse de la langue. C'est le cours donc qui a commencé il y a 7 ans. Les gens ont bien progressé parce que les gens s'investissent énormément. Le second cours est un cours avancé qui s'adresse à des personnes qui connaissent bien la langue. Mais, comme l'a dit M. Fournier, l'italien est une langue qui paraît très facile et qui ne l'est pas du tout, parce qu'elle a une grammaire complexe. Il y a beaucoup de conjugaisons, y compris du subjonctif qu'on emploie très facilement en italien, subjonctif imparfait. Nos scolaires savent presque plus ce que c'est en français, mais en italien, on l'emploie énormément. Et ces structures grammaticales, pour pouvoir parler, il faut les maîtriser. Donc ce cours intermédiaire s'adresse à des gens qui ont déjà de bonnes notions de grammaire. Bien. Il a lieu le mercredi de 10h à 11h30 à la Maison Saint-Georges, je crois. Elle s'appelle maintenant le site Saint-Georges, ancienne maison des associations. Il n'y a pas de cours de débutants, alors que j'entends souvent des gens dire « Pourquoi il n'y a pas de cours de débutants ?» Ben, pour une raison toute simple, c'est qu'il faut le faire savoir. Si on veut faire de l'italien débutant, il faut le faire savoir au secrétariat de l'UTB. Il faut qu'il y ait au moins 6 personnes. Moi, je suis prête à commencer un cours débutant s'il y a des gens intéressés. Bien. Comment sont faits les cours ? Eh ben, je rejoins la manière de faire de Madame Kasprit au cours d'allemand. Moi, je me base uniquement sur la vie quotidienne, au point de vue civilisation, culture, politique, événementiel, peinture, littérature, un petit peu de littérature et peinture, je l'ai déjà dit, tous les arts, parce que vous savez tous que l'Italie est un pays très riche au point de vue culturel et que les gens qui apprennent l'italien souvent sont attirés par ces aspects. Que vous dire encore? Que il y a vraiment une très bonne atmosphère dans ces cours, que les gens sont tous devenus admis depuis qu'ils fréquentent les cours, et quand quelqu'un s'intègre au cours, très vite, il fait partie du groupe. Comme l'a dit un de mes autres collègues, quelquefois on se titille parce qu'on n'est pas d'accord sur les points de vue, sur les analyses, mais tout ça se fait en italien, c'est très agréable. Je pense que l'année prochaine ce sera de la même manière, parce que ça c'est toujours pas assez comme ça, et l'année se termine non pas par, comme avec ma collègue d'allemand, un pot d'accueil, mais moi je fais un pot de fin d'année où tout le monde se retrouve avec un petit verre de prosecco ou de spritz. Mais les spécialités vénitiennes, puisque moi, je suis moi-même d'origine vénitienne. Voilà. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui voudront bien venir cette année encore au cours d'italien.
Atelier d'art plastique, Madame Chaud. Ah, si, pour enregistrer, parler dans la boule.
Bonjour, donc je suis Josette Chaud. J'ai fait un petit papier parce qu'à chaque fois, j'oublie d'en dire. Donc, comme chaque année, depuis une dizaine d'années maintenant, les cours d'art plastique vont reprendre début novembre. C'est un atelier pour vous apprendre à regarder et à former votre œil à toutes les couleurs intermédiaires que vous ne voyez pas forcément sans un œil exercé. Et ça, vous allez le découvrir. Il n'y a pas d'âge pour commencer, et même la personne qui n'a absolument aucun don pour les arts plastiques peut découvrir tout le potentiel qu'elle a en elle et qu'elle ignore. Les arts plastiques sont aussi une thérapie. Ils apprennent à se concentrer, à se ressourcer et à prendre du temps pour soi. La personne change, elle n'en a pas forcément conscience. De plus, quand vous irez voir une exposition, vous la verrez avec un tout autre regard et vous serez étonné du résultat. Vous pouvez venir pour apprendre le dessin ou la peinture. Rien n'est imposé et je vous propose d'aller voir sur le site de l'UTB le travail réalisé. Nous allons mettre d'autres travaux en ligne en novembre ou décembre. Au début, nous faisons des copies de grands maîtres pour apprendre à faire des accords justes. Le sujet est choisi par la personne intéressée de manière à ce que la peinture lui parle, qu'elle se sente bien et en harmonie avec elle-même. Il n'y a aucun jugement. Les cours reprennent mardi 3 novembre de 10h à 12h au 9 rue du Parc au premier étage en face de la maison des syndicats. Je suis à votre écoute à la fin de la réunion pour vous fournir de plus amples renseignements.
Voilà, merci Madame Chaud. Liliane Douté va vous proposer...
Une sérieuse démarre. Voilà. Donc, deux fois par mois, nous faisons de la dictée. Alors, mon souhait au départ était de prendre les gens avec un niveau un peu moyen, on va dire, dans un premier groupe, et puis les meilleurs dans un deuxième. Et les semaines évoluant, les années évoluant, parce que finalement, on a commencé ça il y a...
Tout le monde est devenu bon. Tout le monde est devenu bon.
Voilà, tout le monde est bon au départ, aime la dictée, il n'y a pas de jugement non plus, chacun corrige sa copie, je ne jette aucun œil, parfois j'aide un peu, j'accepte la négociation de gens, mais on ne peut pas comprendre la phrase comme ça, alors je dis oui, je dis non, c'est selon, si on peut je dis oui, si on ne peut pas je dis non. Donc, deux fois par mois, on fait une dictée, donc je lis la dictée, j'explique deux, trois points de grammaire, je rappelle la règle sur laquelle j'ai fixé mon texte précisément. Ensuite, on corrige ensemble, on parle de l'auteur, on parle de l'étymologie des mots, je parle beaucoup.
C'est normal pour la dictée.
Oui. mais tout le monde peut parler aussi. J'ai aussi une majorité de femmes, donc j'aimerais bien aussi quelques hommes. Et cette année, c'est 20 euros pour l'année. Avant, j'avais le plaisir de dire que c'était gratuit. Là, c'est plus gratuit.
Voilà.
Voilà. Bien. Donc 20 euros pour l'année. Alors, vous avez droit à un tour gratuit comme tout le monde. Hein. Vous venez voir ce qui se passe sur la première séance le 5 octobre, le 5 et le 12 pour le mois d'octobre. Autrement, c'est une fois tous les 15 jours. Mais là, il y a les vacances de Toussaint, donc ça nous fait le 5 et le 12 octobre. Ensuite, on sera en vacances et on prendra ça en novembre. Vous avez des questions ? Alors, il n'est pas nécessaire d'être bon en dictée pour venir.
J'ajoute quand même, parce qu'elle est modeste, elle fait un compte-rendu, si vous voulez, de la dictée, avec, et je crois que ça c'est vraiment le grand plus du travail de Liliane, dans lequel évidemment elle met en exergue toutes les difficultés d'orthographe et de grammaire, mais également elle donne un petit flash sur l'auteur du texte qui a été choisi comme support, et donc ça complémente largement le niveau élémentaire, enfin au premier degré, de la dictée. Voilà.
Donc on fait des dictées difficiles aussi, hein, des dictées assez longues qui regroupent un certain nombre de difficultés. Une en particulier, si vraiment c'est costaud, l'accord des participes passés, par exemple, c'est costaud, donc il n'y a que cette difficulté ou presque. Mais on corrige, j'explique les règles, on corrige, j'envoie ensuite à chacun et sur le site la correction de la dictée. Alors la dictée est ce qu'une de mes adhérentes préférées appelle le tourne-autour, c'est-à-dire l'histoire des mots, l'application de la règle, les exceptions, ça existe pour l'accord des adjectifs de couleur, et puis la vie de l'auteur et 2-3 points historiques si c'est intéressant, C'est le contexte, c'est aussi important que la dictée. Là aussi, nous formons un groupe sympathique qui ne commence pas par un pot d'adieu, mais qui fête les rois parfois, et qui se termine par un repas en commun que nous avons déjà pris 2 années consécutives et qui a bien terminé l'année d'une façon très sympathique. Voilà. J'aime beaucoup ce groupe, j'y suis très bien. Je vous engage à nous rejoindre.
Groupe lecture, Madame Christiane Coffin.
Le groupe lecture se réunit le troisième jeudi du mois, d'octobre à mai, le matin de 9h30 à 11h45, au site Saint-Georges, 30 rue Saint-Georges à Chalon-sur-Saône, sauf pendant les vacances. Nous nous intéressons plus particulièrement aux auteurs des 20e et 21e siècles. Cette année, nous lirons Patrick Modiano, Didier Van Kovler, David Funkinos, Luis Sepúlveda, qui est un auteur chilien, et des auteurs antillais. La personne qui a choisi l'un de ces auteurs nous présente sa biographie. Les autres participants du groupe auront lu l'un ou l'autre ouvrage de cet écrivain. Un échange se fait alors autour de la table. Notre première séance, c'est-à-dire celle du 15 octobre, sera consacrée à nos lectures de vacances. En janvier, nous lirons les prix littéraires du mois de novembre et le mois de mars sera consacré au printemps des poètes. Comme nos séances ont lieu le matin, nous pouvons ensuite déjeuner ensemble. Moment très convivial, mais pas obligatoire.
Merci. Groupe littérature, Madame Pio, Madame Françoise Pio.
Oui. Alors, tous les ans, quand je dis groupe littérature,
drôle de tête. Ça fait prétentieux, ça fait difficile, ça fait barbant. Bref, ben, je crois pas. Et on essaie, enfin, ne serait-ce que la fidélité, la curiosité, la passion de celles, surtout de ceux quelquefois qui viennent, on en a assez sur place, prouve bien que ça n'est pas une cause perdue. C'est au contraire une cause à défendre. Alors, littérature ne s'oppose pas à lecture. D'ailleurs, la première personne qui parlera cette année, elle vient de vous parler. Donc, vous voyez. Et puis, ça ne s'oppose pas à l'orthographe. Ça ne s'oppose pas aux sciences non plus. Et puis, il n'y a pas besoin d'être littéraire. Nous sommes très variés, très diverses et divers. Alors, le programme, je pense qu'il est là. Oui, donc tout est là. La spécificité de la séance de littérature, c'est que nous nous consacrons à une seule œuvre. Et que ce qui compte, c'est moins la biographie de l'auteur que l'œuvre, en fait. Les œuvres ont été choisies par les gens de l'année précédente. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a peut-être pas d'unité dans ce que vous voyez ici. Mais il y a un désir profond de présenter quelque chose qui nous a semblé important, qui a la réputation d'être une œuvre majeure, peut-être même un classique. Et au fond, on se demande pourquoi. Et c'est ce qu'on essaie de faire au cours de la séance. Alors les séances, je ne vais pas faire la pub pour le groupe et pour les à côté. Je crois que chaque groupe, chacun des ateliers, chacun des groupes, c'est une réunion de gens qui effectivement apprennent à se connaître, à s'aimer. Et la littérature est un excellent média. Et puis, je voulais dire aussi, œuvre littéraire, il ne faut pas que ça fasse peur, mais il faut défendre la littérature. De tous les pays, de toutes les époques. Cette année, on est un peu limité. Si j'avais su, je me serais, comme souvent, comment dire, pas contrainte, parce que c'est un plaisir, mais j'aurais présenté une œuvre grecque ou romaine. Je le referai l'an prochain, parce qu'il faut défendre ça. Il faut défendre les humanités. Et donc, alors, il y aura juste Britannicus que justement j'aurais présenté qui va me permettre d'évoquer un peu l'histoire romaine. Mais autrement, nous sautons même un siècle, nous allons au 19e siècle et nous allons, en France bien sûr, Balzac, nous allons de l'autre côté de la Manche, Dickens, nous allons en Russie, Dostoïevski. Et puis au 20e siècle, on ouvre d'ailleurs très bientôt avec Martin Eden, qui est un livre essentiel de Jack London. Et ensuite, on aura Cocteau et Charles Juliet. Voilà. Les séances ont lieu le lundi après-midi à 14h15. Mais je dois remercier Liliane qui fait tout. Et elle fait tout ici. 14h15 à l'Espace des Arts, dans les locaux de l'UTB. Alors le lundi, on peut encore se garer dans le coin. Et la personne qui a choisi de s'attaquer à l'œuvre, parce que vous savez, c'est un gros travail quand même. La personne qui a choisi de la présenter le fait pendant, mettons, une heure et quart. Et ensuite, les membres du groupe qui s'engagent quand même à lire cette œuvre. Ah oui, bien sûr, c'est pas toujours possible. C'est bien, c'est mieux. À ce moment-là, pourront donner leur regard, leur jugement, leur déplaisir, leur plaisir, peu importe. Voilà. Donc on commence le premier lundi d'octobre. C'est toujours le premier lundi du mois, sauf assemblée générale,
sauf vacances. C'est un coup de pied de l'âme.
Non, mais c'est pas grave. Voilà. Merci.
Merci. Alors, groupe Patrimoine Écrit de Bourgogne, est-ce qu'il y a des... Jean-Paul, il veut intervenir ? Non, je parle pour le groupe. Oui, oui. Donc, au groupe Patrimoine écrit de Bourgogne, nous allons publier le résultat d'un travail qui est terminé, on va dire. Il n'y a plus que les fignolages tout à fait de terminaison, la préface, des choses comme ça. Et il paraîtra normalement début décembre, juste pour que vous puissiez l'acheter pour offrir des cadeaux de fin d'année à votre famille. Alors, on a travaillé sur Lazare Carnot. Alors, Lazare Carnot, évidemment, nous ne sommes pas des historiens spécialistes de Lazare Carnot, mais nous avons rassemblé, il y a quand même une bibliographie quand même assez impressionnante, et nous faisons des livres thématiques. En général, dans les grands personnages, donc le critère patrimoine écrit de Bourgogne, c'est que ce soit des gens qui écrivent quelque chose et qui soient bourguignons. Hein. Donc Lazare Carnot, c'est les deux. Ah, on sait peu qu'il a beaucoup écrit. Lazare Carnot est connu comme un homme politique sous la Révolution, plus ou moins bien, mais enfin c'est ça qui l'a rendu célèbre. Mais il a des tas d'autres facettes de son personnage. Il a été poète, il a été mathématicien. Il a été mécanicien, il était ingénieur du génie, donc il a beaucoup de facettes de son personnage, et il y a un chapitre par chacune de ces facettes. Évidemment, on n'a pas balayé l'ensemble de l'œuvre dans chacun de ces chapitres, mais en lisant ce livre, si vous voulez, vous faites une idée complète du personnage qui est assez difficile à capter dans les monographies très indigestes, qui font 5 ou 800 ou 1000 pages, qui sont très bien faites, d'ailleurs sur lesquelles on s'est appuyé, mais qui demandent à être avalées, si vous voulez. Là, c'est beaucoup plus digeste, les chapitres sont courts et faciles à lire, donc on n'a pas été à l'atelier d'écriture, on a eu l'impertinence de penser qu'on savait suffisamment bien écrire, sans passer dans les mains de Maillard. Donc vous pourrez en juger vous-même. Et on a fait. Il y a un chapitre qui, à mon avis, est assez original, qui a été écrit par Françoise Raslovlev, qui n'est pas là cet après-midi, qui est donc la pilote, on va dire la rédactrice en chef de l'ouvrage. C'est la perception de Lazare Carnot dans les manuels scolaires depuis la Révolution. Et on voit que l'histoire, l'enseignement de l'histoire, je ne sais pas s'il y a des professeurs d'histoire, sûrement dans la salle, même aujourd'hui, Madame Roux nous l'avait bien dit, l'enseignement de l'histoire, malheureusement, est une propagande, d'une certaine manière, des idées du moment. Donc ça a été largement utilisé dans les... Et donc, on voit que Lazare Carnot, suivant la couleur politique des dirigeants de machin, apparaît dans des sommets extraordinaires dans les manuels, et le coup d'après disparaît complètement. Et il apparaît, et la façon dont on le décrit est complètement différente d'une séquence à l'autre. Et donc ça, c'est un travail original qui a été fait par Françoise, en allant elle a pioché dans les manuels qu'elle a retrouvés, parce qu'il y a une bibliothèque spécialisée à Toulouse qui engrange tous les manuels scolaires qui ont été écrits depuis la Révolution. Elle est allée à Toulouse pendant 4 jours, et elle a épluché tout ça, et donc on a un travail qui, à mon avis, là, est assez original. Et dans ce livre thématique, il y a également des à côté, si vous voulez, des à côté qui sont liés à la vie de Lazare Carnot. C'est l'école du génie de Mézières, dans laquelle il a fait ses études, donc une monographie complète là-dessus. L'Académie de Dijon, qui a rendu célèbre Jean-Jacques Rousseau en 1750, puisque c'est la thèse qu'il a développée devant cette académie qui l'a rendu célèbre dans le monde dans la République des lettres, comme on dit maintenant, hein. Et donc cette académie de Dijon qui était à la limite plus célèbre que l'académie de Paris, et ça on l'a complètement oublié, donc vous avez un chapitre complet là-dessus. Donc je fais déjà de la pub, vous voyez, pour vous inciter à vous intéresser déjà au bouquin, je pense, par rapport à l'idée qu'on s'en faisait au départ quand on a lancé ce projet, il est nettement mieux que l'idée qu'on s'en faisait au moment de démarrer, si vous voulez. Donc voilà. Alors, ce cycle est terminé, donc actuellement il y a des réunions pour essayer de choisir un autre auteur. bourguignon et qui ait une aura suffisante. Donc pour le moment, le choix n'est pas fait. Si ça vous intéresse, donc ça consiste à quoi? C'est des groupes de travail exactement comme ceux qui vous étaient décrits, comme les groupes littérature et tout. Donc il faut travailler un petit peu à la maison. Il faut faire des recherches documentaires. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. On va aussi dans les bibliothèques et on fait une monographie, mais thématique et par section. Et en principe, facile à lire. Voilà. Donc, de la même façon, si ça vous intéresse, eh bien, vous venez à la première séance et puis vous verrez comment ça se passe. Et si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez continuer. Groupe économie et géopolitique, eh bien, je dirais, je vais faire le parallèle avec les groupes de littérature. C'est exactement le même principe où on fait simplement des exégèses, des analyses d'ouvrages ou d'articles, puisque sur cette thématique, la matière première, c'est très souvent des articles de revues spécialisées. Et on discute autour de tout ça, et Dieu sait si... D'ailleurs, cette année, je refais de la pub pour une des conférences sur ce thème-là, qui s'appelle « Les économistes sont-ils nuls ?» Donc, on a trouvé un conférencier qui va nous parler de ça. Donc, on va l'écouter avec attention. Voilà. Groupe éthique et société. Alors, Monique, vas-y. Tu parles dans le micro, hein.
Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Alors, comme chaque année, le groupe Éthique et Société a déjà tout le programme dans son nom, si on peut dire, puisque éthique, eh bien, en effet, c'est pas un titre qui a été choisi par hasard, c'est un titre qui a un sens, puisque l'éthique, il y a l'éthique du sujet, mais il y a aussi l'éthique dans le comportement des personnes de ce groupe, puisque nous sommes un groupe qui travaillons sur les sujets éthique et société, les problèmes de société, ce qui se passe dans la société. On a commencé il y a 8 ans en travaillant sur la crise financière. Nous sommes passés ensuite les médias, la justice, la santé, etc., etc. Bon. Et donc, ce qui est important dans ce groupe, vous vous en doutez, nous avons tous des idées très différentes. Tant sur le plan, il y a les gens croyants, les incroyants, il y a les gens qui pensent à droite, d'autres à gauche ou au milieu, mais peu importe, tout le monde se respecte, tout le monde s'écoute et on s'aime bien. On s'aime bien et même ce qu'on a constaté tous, la plupart d'entre nous, c'est que avec les personnes qui pensent tout à fait à l'opposé de nous, maintenant qu'on les connaît, ça ne nous gêne absolument pas, on aime bien la personne et ses idées. Et les arguments apportés, eh bien, améliorent les nôtres, nous enrichissent. Ce sont des échanges assez profonds et qui sont, ma foi, fort intéressants pour chacun de nous. Alors, on s'y plaît, et on s'y plaît tellement que nous avons plus que doublé notre nombre depuis le début. Personne ne s'est tué ni agressé.
Pas encore.
Très bien. Nous sommes donc tous restés vivants. Alors, il y a des petites conditions, c'est savoir se servir d'Internet, puisque nous avons, les gens doivent être accessibles par messagerie pour les documents à recevoir ou à envoyer. Sinon, il faut un conjoint ou une conjointe de bonne volonté pour faire le travail à la place de la personne. Ça arrive. Bon, et c'est très gentil, ça se fait très bien. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est que les personnes qui ne savaient pas utiliser Internet et qui sont arrivées dans notre groupe, ce fut un motif pour apprendre. Et donc, plusieurs personnes se débrouillent très très bien maintenant. Ça a été une très bonne motivation. Alors, autre condition, c'est faire un exposé par an. Nous avons un thème de travail que l'on choisit de façon collégiale, c'est-à-dire que tous décident en groupe de façon très démocratique. On vote. À partir vers le mois d'avril, on commence à penser au thème de travail de l'année suivante. Tout le monde apporte ses idées ou les envoie ou les apporte et les dit au cours de la réunion, de la fin de la réunion du mois d'avril. Au mois de mai, la réunion du mois de mai, tout en faisant notre exposé prévu, nous décidons du thème. On vote et c'est la majorité qui remporte. Alors cette année, ça a été formidable parce que personne n'a été... Enfin, personne. Il y a bien des frustrés, bien sûr, chaque année, qui ne voient pas son thème voté. Mais cette année, ils ont été trois à choisir le même thème, si que je dois dire. Et alors, ça fait donc fait trois heureux et qui nous ont convenus, qui nous a convenus à tous, puisque nous l'avons choisi à la majorité. Alors, ce qui se fait après, le thème est choisi, mais tout n'est pas terminé pour autant. Quand le thème est choisi, on choisit des sujets à l'intérieur du thème. Chacun choisit ce qu'il veut. Il choisit son sujet, il choisit son livre qu'il va résumer et exposer pour le groupe. Voilà. Et c'est là-dessus. Alors, le thème est exposé pendant... L'exposé est fait sur à peu près 20 minutes du temps du groupe qui dure 2 heures. Et le reste du temps est consacré au débat. Débat d'idées sur l'exposé qui vient d'être fait, qui est donc en rapport avec le thème choisi démocratiquement. Alors, c'est pareil, j'ai fait un anti-sèche, hein, parce que j'aurais peur d'en oublier.
Si tu as oublié, c'est marqué là.
L'exposé annuel est donc une condition aussi de participation à ce groupe, puisqu'on est là pour ça, en fin de compte. Alors, ce que le groupe n'est pas, c'est pas un groupe où on déverse ses problèmes familiaux ou professionnels. C'est ni le lieu, ni souhaité. Ce qui est exposé par chacun est de l'ordre de la connaissance intellectuelle sur le sujet choisi pour l'année. Voilà. Alors, je vous donne le thème. On se réunit une fois par mois au secrétariat de l'UTB. Les dates sont également choisies en commun avant de se quitter au mois de juin. On fait le programme sur l'année pour que les agendas soient, pendant que les agendas sont encore disponibles. Et on choisit pour l'année complète. Vous recevez un plan de travail avec les dates et avec le livre exposé à chaque séance. Et la personne qui le présente. Dans notre groupe, il y a aussi un modérateur, parce que bien sûr, on a tendance à être un peu dissipé, on a tendance à dire à son voisin ce qu'on pense, etc., à un petit peu bavarder. Alors, il y a un modérateur qui fait un petit peu, comme à l'école, mais plus de façon beaucoup plus souple, qui rapporte quand même un petit peu de silence pour qu'on puisse justement s'écouter. Voilà. Alors, le sujet, une fois par mois, donc pendant 2 heures à 17h, et le lundi. Alors, le sujet de l'année prochaine, où tous les trois personnes qui ont eu l'idée ont pu voir leurs souhaits exaucés, adaptation de la société à l'accélération du progrès englobant, entre autres, consommer toujours plus, jouir, accumuler et après. Quelle place pour une vie qui aurait un sens? Le désarroi d'une certaine jeunesse ne résulte-t-elle pas d'une quête inaboutie? Et ensuite, le progrès est fait délétère autant que bénéfique pour l'homme. Voilà. Alors, c'est un groupe où la parité est tout à fait respectée. J'ai pas compté, mais ça doit quand même faire pas loin de 50-50, il me semble. Voilà, et ça se passe très bien, parce que les uns, par les formes de personnalité masculine et féminine, se complètent, et c'est très agréable aussi, parce que nous, les dames, on aime bien avoir le point de vue des messieurs, où ils pensent un petit peu différemment de nous, et puis je suis sûre qu'eux aussi, ils aiment bien avoir le nôtre, ça va de soi. Hein. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit, peut-être
voilà.
Si j'oublie quelque chose.
Merci.
La prochaine réunion, lundi 28 septembre à 17h, et un repas termine, bien sûr,
comme
l'année
d'habitude,
fin
voilà.
Juin, très agréablement.
Donc, pour les mauvaises langues, on pourrait dire que l'UTB est devenu un club de rencontres avec gueuleton de fin d'année.
Attends, je crois qu'il y a des questions. Quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Non? Pas de questions?
Bien.
Non.
La marche. Donc, mens sana in corpore sano. Donc, voilà. L'UTB marche.
Bonjour à tous. Alors, donc, nous sommes un petit groupe qui vous proposons des marchés deux fois par mois, donc le deuxième et le quatrième lundi de chaque mois, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Alors, les marches consistent donc à partir soit d'un lieu qu'on a défini, si vous voulez, Chamilly, Aluz, on part de ce lieu, ou alors on part de la maison des syndicats à Châlons. On démarre la marche à 13h30 et on marche pendant 3 heures. Donc en 3h, 3h30. Donc en moyenne, on fait 10 km en 3h, 3h30. Alors, je redis ce que j'ai déjà dit l'année dernière, à savoir que ce sont quand même de vraies marches, dans le sens que on est un peu sur des terrains variés. On va être sur des sentiers, on va être sur des routes, on va monter, on va descendre. Donc ça suppose d'être équipé correctement au niveau des chaussures. On essaye de marcher à allure modérée, c'est-à-dire que depuis qu'on a repris l'affaire en main, là, depuis un an ou deux, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas des marches sportives, mais que ce soit des marches plaisir. C'est-à-dire qu'on se balade dans la nature, on en profite pour regarder ce qui se passe autour de nous, profiter des paysages. Et donc, ça veut dire que on s'arrête quand même au moins toutes les heures, et on prend le temps, si on a besoin, de prendre un petit encart. Enfin, bref, s'il y a des gens qui manquent un peu de force, et ainsi de suite. Voilà. Alors, quoi dire de plus par rapport à ces marches? On termine l'année avec ce qu'on appelle un pique-nique, où là, donc, on est parti toute la journée, donc on démarre à 9h le matin, et puis on marche le matin, on marche l'après-midi, et on pique-nique ensemble en cours de journée. Voilà. Alors, si vous avez... On va vous passer donc un petit diaporama que Annie et Jean-Paul donc ont concocté donc par rapport au pique-nique de l'année dernière. Ce pique-nique s'est déroulé donc au confluent de la Seille et de la Saône, donc à la Truchère. Voilà. Et qui nous a permis de découvrir à la fois un milieu naturel et de découvrir un paysage différent de ce qu'on a l'habitude de voir.
Le micro. Mais du tout. Ça se termine par un gueuleton. Voilà, merci Annie pour le petit diaporama. C'était sympa. Il baisse le son.
Vous avez des questions?
Oui, donc depuis quelques années, enfin depuis 2 ans là, on a pris un petit peu l'objectif de faire des marches donc un petit peu plus courtes, et puis de privilégier le côté culturel, découverte de la région, et là donc la découverte de la Truchère, de Romney, qui est un petit village très typique, voilà, pas si loin de Chalon. Donc on va privilégier ça sur sur l'année prochaine, en essayant de en fait faire des marches qui n'ont pas encore été faites, parce que depuis quelques années on refaisait toujours un petit peu les mêmes circuits, et bon, là on va essayer de vous trouver des choses un petit peu différentes. Voilà.
Oui. Oui.
On fait appel aux bonnes volontés pour trouver des nouveaux circuits aussi. Et on est ouvert à tout pourvu que ça fasse 10 kilomètres. Et que ça reste dans une zone autour de Chalon. Voilà. Avez-vous des questions à poser? Alors, on a pris le parti de faire comme dans tous les ateliers, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire auprès de Muriel, enfin auprès des personnes qui font les permanences. Vous donnez ces 2 euros. Alors, les 2 euros correspondent à l'assurance que prend l'UTB pour le cas où il y aurait des problèmes par rapport à ce qui se passerait dans une marche. Hein, c'est pas vous qui vous assurez, c'est l'UTB qui s'assure pour se protéger. Hein. Et puis, vous donnez un certificat médical comme quoi vous êtes apte à faire des marches d'une dizaine de kilomètres. Alors, bon... Je sais bien, c'est très contesté, mais ça fait partie des règles de toutes les activités physiques en ce moment. Moi, je sais que je fais une autre activité physique où on exige un certificat médical. Bon. C'est à la fois bien et à la fois contestable.
Tiens, dernière ligne. Faut en parler. Oui.
Alors cette année, donc Monsieur Fournier, le GPS. Cette année, M. Fournier a souhaité qu'on s'équipe d'un GPS.
C'est les gars de la marche qui ont souhaité s'équiper, et j'ai dit d'accord. Ah,
ouais. Non, mais il nous a fortement poussé à nous équiper d'un GPS, parce que le groupe qui anime fait systématiquement des reconnaissances la semaine d'avant. Et pour nous éviter certains déboires que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire faire 5 ou 10 ou 6 kilomètres de trop parce que on n'a pas pris la bonne direction, le mieux c'est d'avoir un GPS, puisque maintenant ça fait partie des technologies de pointe et modernes, quoi. Voilà. Donc on est équipé et on va s'en servir, et on se servira, je pense qu'on pourra se servir des programmes qui sont fournis par les vendeurs de GPS pour justement vous envoyer à l'avance les circuits que l'on va proposer. Voilà. Alors on va tester tout ça demain après-midi. D'autres questions?
Merci. Alors on va terminer par les voyages, qui sont le point d'orgue de nos activités complémentaires. Donc ces voyages, on les divise en deux grandes catégories, les grands et les petits. Hein, c'est pas très original. Donc on essaye de faire que les grands et une partie des petits, enfin même tous les petits, aient un lien plus ou moins direct avec des thèmes qui sont développés soit dans les conférences, soit dans les ateliers. Et donc c'est le critère, si vous voulez, de choix. Alors quel est l'intérêt de faire des voyages pour l'UTB, d'organiser des voyages pour l'UTB? On voit depuis au moins une dizaine d'années que les gens voyagent beaucoup plus par eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce que l'UTB peut apporter de plus? Premièrement, que le thème soit en lien avec une conférence, que le conférencier ou des gens qui sont autour de la conférence accompagnent le voyage, donc c'est un plus. Et également le fait qu'on puisse faire des circuits qui soient un petit peu atypiques par rapport à ce que vous pouvez trouver dans les catalogues de voyagistes qui existent partout. Donc faire des choses un petit peu atypiques. Donc on a la règle, en général on ne prend pas un truc tout fait disons, qui est chez Girardot ou n'importe quel autre agent. Je n'ai rien contre Girardot, si un petit peu quand même. Mais donc, on fait des voyages à la carte, ne serait-ce que pour voir un lieu particulier ou des choses comme ça. Je vais vous citer un cas qui me vient à l'esprit. Là, on est allé en Angleterre, donc il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, là. Et on a visité, j'y tenais toute parce qu'en Angleterre, vous allez à Londres, bon, bah, vous voyez toujours les mêmes choses, bon, des choses qu'il faut effectivement voir si vous n'êtes jamais allé. Mais à Londres, on est allé voir le théâtre du Globe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une reconstitution du théâtre de Shakespeare qui a été refaite récemment, hein, et qui est toute récente, dans laquelle on joue des pièces de théâtre, comme on le faisait du temps de Shakespeare, en plein air. Et donc c'est tout à fait, donc c'est un mélange, si vous voulez, d'un musée et d'un vrai théâtre, si vous voulez, hein, et c'est très bien fait. Et donc on a eu la chance de pouvoir visiter ça avec des explications qui étaient tout à fait intéressantes. Et en général, vous ouvrez les catalogues Londres by night ou by day ou tout ce que vous voulez, il n'y a pas le globe, non, c'est pas tourisme, voilà. Donc on choisit quand même quelques extras qui ne sont pas dans les circuits habituels. Voilà l'intérêt de faire des voyages comme ça. Alors, on essaye de faire un prévisionnel, puisque une des difficultés des voyages, c'est d'avoir un nombre de personnes suffisantes pour que le voyage puisse se faire. Alors, avant, on avait une clientèle qui était très demanderesse de voyage, elle diminue parce que les gens nous disent « Ah bah oui, les voyages c'est très bien, mais celui-là j'ai déjà fait, je suis déjà allé là, donc la clientèle potentielle s'évapore un petit peu. Et donc il nous faut proposer des plus ou des différenciations. Et donc on fait un sondage au moment de l'inscription sur un petit cahier en disant « S'il y avait tel voyage, est-ce que vous seriez susceptible d'être intéressé ?» Donc pour ceux qui sont passés à l'UTB, eh bien, et ceux qui acceptent de le faire, on met des croix dans des colonnes. Ça n'a aucun engagement, mais ça nous permet de voir si on n'a que 2 croix dans une colonne, on ne veut pas s'embêter à étudier le voyage. Il faut vraiment qu'on en ait beaucoup pour, prendre le risque de faire le travail d'élaboration du voyage avant de proposer. Donc voilà les idées que l'on a. Je ne veux pas dire que tous ces voyages vont se faire, mais les idées que l'on a pour l'année prochaine... Et donc ces idées sont liées à des choses qui ont été faites dans les conférences. Le Brésil l'année dernière et cette année également, NXP va nous parler de l'architecture au Brésil. Et donc un exemple typique au Brésil, si vous parlez d'architecture, il faut aller à Brasilia. La plupart des circuits classiques du Brésil ne vont pas à Brasilia. Voilà. Et on va parler de la déforestation, des choses comme ça. On va aller dans des endroits, à Minas Gerais, où on verra la réalité de la déforestation, si vous voulez. Donc, c'est ça qui nous... Et en général, dans les circuits tout faits, on ne montre pas ça, hein, ça c'est clair. Ou alors, vous avez un circuit qui n'est ciblé que sur cette thématique-là. Et vous ne voyez pas les bâtiments de Brasilia, où vous n'allez pas sur le Corcovado, etc. Donc on mélange un petit peu tout. Hein, voilà. Alors les visites locales, ben, il y en a déjà une qui va se faire le 29 septembre, donc la semaine prochaine, donc à Giana d'Arc. Alors là, on a toujours des difficultés. Alors cette année, je sais pas, ça doit être Mathis qui a été le meilleur avocat. Donc vous avez pris un bouquin ? Pour Giannada, le musée. Vous avez téléphoné ? Mais il faut le faire. Il faut essayer de le voir. Hein. Bon, là, c'est un aparté. Excusez-moi. Donc, Giannada, le musée des confluences à Lyon. Alors là, ça vaut le coup également d'y aller. J'ai été le visiter. Je ne l'avais pas encore visité. Là aussi, il faut un guide, parce que si vous n'allez que dans le musée, vous êtes capable d'y aller vous-même. Si vous le prenez comme ça, bon, c'est bien, mais vous manquez beaucoup de choses. Donc il faut quelqu'un qui accompagne. Alors, justement, il y a une exposition temporaire qui est très bien, on va essayer d'en profiter. C'est une exposition temporaire sur les cabinets de curiosité du XVIIIe siècle, qui est magnifique. Et elle doit s'arrêter fin février ou fin mars, donc on va se débrouiller. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire en hiver. de faire ça et de voir entre, il y a des expositions permanentes basées sur la paléontologie et la l'ethnologie, si vous voulez, c'est un peu la thématique, c'est les anciens, c'est les restes du musée des Guimet d'origine qui est maintenant à Paris, hein, donc mais initialement c'était à Lyon. Et des expositions temporaires sur des thématiques, bon ben là c'est les cabinets de curiosité, c'est vraiment très bien fait. On va au CERN à Genève, puisqu'il y a une conférence sur le CERN. Alors, Mathieu Pinette, qu'on titille toujours en disant où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va l'année prochaine, où est-ce qu'on va. Alors, le pauvre, il a du mal déjà à trouver une date dans son planning hyper serré, donc on lui a extorqué sous la torture le château de Fontainebleau, et il a accepté. Mais bon, voilà. Saulieu-Vézelay, Saulieu, parce qu'on a des conférences sur, voilà, j'ai un trou de mémoire, de Pompon et machin, et on verra des choses sur l'histoire de l'art qui sont pas que la cathédrale de Vézelay. Hein. L'Académie Bourdon au Creusot, pour ceux qui la connaissent pas, la Grotte Chauvet, puisque début octobre, donc on a la chance inouïe d'avoir Jean-Claude pour deux conférences. Jean-Claude, c'est l'archéologue qui a étudié la Grotte Chauvet après qu'elle ait été découverte par le fameux Chauvet, sans parler des polémiques autour de de l'origine de la découverte. Donc c'est le gars qui connaît le mieux. Hein. Et donc on avait essayé de l'avoir et puis on dit bon, on essaye quand même pour voir. Il a accepté de venir. Donc ça, c'est quand même toujours difficile de faire venir des pointures à Chalon-sur-Saône, qui n'est quand même pas le centre du monde culturel occidental. Pas encore, mais on y travaille. Voilà. Et quelque chose à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, puisque pour ceux qui sont des anciens de l'UTB, il y a un nom qui va vous être familier, c'est Laurent Saccaro, qui a fait des conférences sur les châteaux du Moyen-Âge. Et c'est lui qui a fait beaucoup de travaux sur le château de La Rochepot. Eh bien, il travaille actuellement à La Chaux-de-Fonds, et donc il peut nous accompagner. Donc vous voyez pourquoi on propose ça, c'est non seulement qu'il y a des choses à voir, mais on a des gens qui nous connaissent et qui peuvent accompagner le voyage d'une façon pertinente. Voilà, alors un point maintenant très important, c'est comment ça marche pour s'inscrire. Donc on vous a dit que ça se passait au secrétariat, mais si tout le monde vient en ordre dispersé, c'est extrêmement difficile. Donc le bulletin du mois d'octobre, qui va être diffusé en papier si vous l'avez demandé, mais si vous ne l'avez pas demandé, vous le téléchargez sur le site, je vais le mettre ce soir, hein, donc il est fini, il est en train d'être tiré, et dedans vous avez 3 ou 4 pages qui sont des petites vignettes comme des coupons d'alimentation, on n'a pas réussi à faire mieux, parce que et dessus tous les ateliers sont décrits en disant ben moi je veux m'inscrire à ceci, je veux m'inscrire à cela, et quel est l'objectif de ça? C'est pour permettre au secrétariat de s'y retrouver. Et vous voulez vous découper, comme on faisait avec les bons d'alimentation, avec une paire de ciseaux, vous découpez dans le papier le truc, vous le remplissez et vous venez, ou vous l'envoyez par la poste, vous envoyez votre petit coupon ou vos petits coupons de telle façon que les dames qui s'occupent, oui.
Gratuit ou pas gratuit?
Gratuit ou pas gratuit. Il faut s'inscrire également aux groupes qui sont gratuits. Parce qu'évidemment, on dit, ah ben là, c'est gratuit, donc je viens, puis on verra bien. Et si on en a le double par rapport à la capacité de la salle, ça nous pose des problèmes. Donc il faut qu'on sache le nombre de personnes qu'on est pour chaque activité. Donc ça, c'est très important. Dans la lettre mensuelle qu'on vous fera, on vous fera une piqûre de rappel. Et si vous venez aux premières conférences, à toutes les conférences, je vais vous casser les pieds avec le processus d'inscription aux ateliers. Parce que tous les ans, c'est un peu le bazar. Je vous en dirai un petit peu plus après. Hein. Je rappelle également que nous avons une formule de café-débat qu'on a mis dans les activités, non pas dans les conférences. Café-débat, eh bien, il n'y a pas d'exposé, il y a des spécialistes de tel ou tel thème, et les gens qui viennent là, on leur paye une petite collation, éventuellement avec une petite participation mineure. Et on discute, et on a fait un café philo l'an dernier qui avait bien marché, et donc Michel Lepilouer propose, avec Arlette Mougin, de resservir la philo, sur un plateau, c'est le cas de le dire. Donc c'est, en général, c'est plutôt au printemps hein, qu'on fera ça. C'est d'accord, au printemps ? Voilà, au mois d'avril. Donc c'est au printemps, on confirme. on vous dira le thème à cette occasion-là, mais si on a d'autres sujets, en général, les cafés débats, pourquoi les fait-on ? C'est quand on voit qu'il y a un sujet qui, par exemple, qui est associé à une conférence qui suscite le débat spontanément. On le voit au moment où la conférence a lieu. Et quand il y a beaucoup de questions, on dit ça mérite. Le format de la conférence n'est pas propice à un débat, disons, très étendu. On peut faire 10 minutes de questions-réponses et puis terminer, tout le monde s'en va. Tandis qu'un café-débat, on a le temps d'avoir vraiment un dialogue. C'est pas facile à mener, c'est le problème du modérateur, comme tout débat. Notre culture ne nous a pas habitués à faire des débats. Hein. Tout de suite, tout le monde parle en même temps, et c'est le bazar très rapidement. Donc il faut qu'il y ait un modérateur qui soit pas modéré et qui soit très habile pour organiser les échanges. Voilà. Alors, inscription aux activités, voilà. Bon, ça je l'ai déjà dit. Ah, je vais quand même vous faire un petit, et là on s'arrêtera là-dessus, donc un petit cours de site internet. Alors, j'espère que ça va marcher puisque je me sers de mon télé. Dès qu'on voit sa tête, vous dites « Ah, il n'est pas beau, mais ce n'est pas de ma faute ». On va parler de Poutine, bien sûr, dans le cycle des conférences. Ah, j'insiste beaucoup, le site internet, c'est vraiment un point où toutes les informations qui concernent nos activités sont dessus. Et en particulier, en temps réel, on donne toutes les informations sur les conférences. Et très souvent, un certain nombre de fois dans l'année, l'événement le plus marquant, c'est le changement d'une salle de conférence. Et ça, on le sait quelquefois que 2 jours avant. Et vous avez ceux qui reçoivent le bulletin papier par la poste, ou même ceux qui l'ont téléchargé sur le site, disent « Ah ben non, ce n'était pas ça qui était marqué ». Donc, sur vos PC, ou alors si vous avez ces petits gadgets magiques qui sont les smartphones, comme on dit en français, eh bien, vous avez le site de l'UTB, et avant de venir, si vous habitez à 20 km, vous jetez un petit coup d'œil pour dire est-ce que la conférence, est-ce qu'il n'y a pas une alerte pour dire la conférence est annulée, ou l'heure a changé, ou la salle a changé. Voilà. Donc, vous le voyez là-dessus. Et là, vous le voyez où ? Vous le voyez là. Donc, sur le site, en bas, ici, vous voyez les 6 prochaines conférences qui viennent en calendrier glissant. Et quand vous voulez voir, ben, aujourd'hui, on fait ça, donc vous cliquez là-dessus. Voilà, vous participez à cette réunion, voilà, et vous savez pas où c'est, puisque vous habitez Chalon depuis seulement très peu de temps, donc vous tapez sur lieu, et puis vous voyez où est la maison des syndicats, et ce soir, quand j'aurai fini de vous parler, je mettrai le document, c'est-à-dire ce que vous avez vu, ma présentation, et l'enregistrement audio que l'on est en train de faire de tout ce qu'on a raconté, avec les bêtises incluses, il n'y a pas de censure. Donc, tout le Larsen, tous les bidouillages, tous les trucs qui marchent pas, vous les entendez en temps réel. C'est vivant. Voilà. Voilà. Et ensuite, alors, un point où j'insiste beaucoup, sur la gauche, ici, vous voyez ce qu'on appelle les actualités, c'est-à-dire, pour dire, soit les nouveautés, soit des événements qui sont pas des événements UTB, mais qui sont des partenariats avec des choses qui se passent dans les mêmes domaines que nos activités. Et donc, je l'ai mis hier soir là-dessus. Depuis hier soir, nous avons la possibilité de s'inscrire à l'UTB sur le site internet, c'est-à-dire sans se déplacer. OK ? On n'a pas encore le paiement par carte bleue. On vous demande quand même d'envoyer le chèque. C'est une préinscription, mais toute votre fiche d'identité, les noms, les mails, les téléphones, tout ce qu'on vous demande de remplir quand vous faites la méthode traditionnelle, ça peut se faire maintenant sur le site. Et je l'ai mis hier soir à 19h. J'ai regardé ce matin, il y a déjà 3 personnes qui sont inscrites, alors qu'on n'a fait aucune pub sur cette fonctionnalité-là. Alors, deuxième fonctionnalité qui est une conséquence de ça, c'est qu'on a une nouvelle formule qu'on va appeler l'adhérent distant. C'est quoi l'adhérent distant? C'est des gens qui habitent à plus de 25 km de Chalon, qui nous disent sans arrêt « Oh, votre programme est génial, je suis d'accord avec eux, il n'y a pas de problème, mais je travaille, j'ai pas le temps, hein. » Et donc, vous pouvez écouter le son et regarder les images des conférences. Et pour ça, on a des gens, actuellement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont à Dubaï, qui écoutent et qui regardent les conférences de l'UTB par Internet. Hein? C'est encore marginal, mais donc on va faire de la pub. Et comment va-t-on faire de la pub? Eh bien, tout simplement par le phénomène des réseaux sociaux. Pas des réseaux sociaux, mais des carnets d'adresses des uns et des autres. C'est-à-dire, vous avez tous chez vous des amis qui habitent à l'autre bout de la France, qui disent « Ah ben oui, si j'étais à Chalon, je m'inscrirais à l'UTB, mais je ne suis pas à Chalon. Je suis à La Hague ou je suis à La Rochelle. » Ah ben oui, ben voilà, il y a cette formule-là. Si ça t'intéresse, tu peux venir. Et donc ça, on vous fera un petit baratin à mettre sur un mail qui soit pas extensif et vous essayez d'en faire de la publicité. Et ça peut nous faire, si vous voulez, des recettes complémentaires. Comme me disent Madame Michaud, elle est pas là dans la salle. Là. Donc une des membres de notre conseil d'administration me dit d'une façon récurrente, mais vous, Monsieur Fournier, vous ne pensez qu'à l'argent. Et dit, heureusement, il faut au moins qu'il y en ait un au conseil d'administration de l'UTB qui ne pense qu'à ça, hein, parce que ça fonctionne pas, disons, par l'opération du Saint-Esprit. Donc, il nous faut des recettes. Tant que je serai là, il n'y aura pas de publicité à l'UTB. C'est comme Wikipédia. Hein. Donc, il nous faut des recettes additionnelles qu'on a avec nos bouquins, avec nos activités complémentaires, etc. On vit bien. Vous verrez qu'on a fait une bonne année 2014-2015. Mais la vie est un éternel recommencement. Si c'est comme le vélo. Si on pédale pas, on tombe. Donc, il faut jamais s'arrêter de pédaler. Hein. Voilà. Donc, allez bien sur le site de l'UTB pour voir toutes les informations qui nous concernent. Voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire un cours complet là-dessus, mais voilà. Je vous remercie. Ne partez pas.